On est reparti, et oui, c'est vrai, Laurent, qui commente avec Myriam, on va dire, un petit retour sur expérience de Charavine pour la fête de la musique.
C'est ça.
Ça va nous permettre de dérouler le fil, toujours le même, cette fois en sortant la boule de cristal et en essayant de se projeter sur vos envies, vos besoins. On a commencé à les évoquer en faisant le constat avant de reprendre l'antenne, ou plutôt en la quittant le temps de la pause musicale, cette parenthèse enchantée qu'on évoquait, sur l'absence ou en tout cas la difficulté à trouver des lieux où continuer à progresser, se retrouver. Voilà, l'avenir, comment peut-être aller chercher des partenariats, susciter des rencontres? Est-ce que c'est des questions que vous vous posez, des envies que vous avez?
Ouais, ça c'est tout à fait. Alors du coup, je ne sais plus si on était en antenne ou hors antenne, donc je vais redire ce qui est là, enfin dire ce qui est là. Dans cette vocation, dans cette volonté de progrès, dans cette volonté d'être accompagné, voilà, hein, c'est pas forcément sur du long terme. En tout cas, voilà, faire un bout de chemin avec quelqu'un qui nous permettrait de donner le meilleur de nous-mêmes, tout simplement, d'être la meilleure version de nous-mêmes, comme on dit aujourd'hui. Un lieu dans le pays voironnais où des gens auraient ces compétences et puis où techniquement il y aurait l'infrastructure nécessaire pour faire ce genre de travail qui permettrait, je pense effectivement, à la population musicienne du pays voironnais qui est quand même nombreuse. Il y a beaucoup d'artistes, on en parlait en antenne, ça je m'en souviens, de talents, de pas forcément que de se retrouver, mais de progresser finalement, parce que ça ferait forcément une synergie qui permettrait de proposer au public une scène plus riche, plus variée, plus aboutie, plus mature, avec des spectacles de qualité. Parce que en fait, on n'arrive pas à la qualité sans travail. C'est pas vrai. Moi, j'aime bien cette conception de ces trois ingrédients nécessaires que sont le travail, le talent et la chance. Et il en faut moins deux pour réussir. Je trouve que c'est pas mal. Et réussir, bon, voilà, peu importe. Mais en tout cas, la chance, on peut la mettre de côté, mais le talent aussi, mais le travail, quoi, c'est le truc qu'on peut vraiment pas, à côté duquel on peut vraiment pas passer. Et c'est énorme ce qu'apporte le travail. Je crois qu'il n'y a aucun génie musicien qui n'ait pas travaillé. Je n'y crois pas une seconde. On est passionné, quand on est un génie, on est passionné, on est complètement pris par ce qu'on fait, et du coup, on passe des heures à chercher, à peaufiner et aller plus loin. Et du coup, ben, avoir un lieu où faire ça, quel que soit son niveau, finalement, permettrait de sublimer les capacités de chacun. Donc ce serait vraiment super.
Je souris parce que j'ai une pensée émue pour Jacques Brel, après Patrick Bruel, Jacques Brel, qui dit « Le talent, je ne sais pas ce que c'est. Il n'y a que le travail, l'art, je ne sais pas ce que c'est. Peut-être que j'ai eu de la chance, mais en cela, si j'ai prouvé que mes chances en travaillant, oui, j'ai eu de la chance de réussir en travaillant.
Voilà.
Et le talent, ça n'existe pas. Mmh. » Il redit ce que tu viens de dire d'une autre manière, à sa manière. Mmh. Mais effectivement, on n'a pas idée, tant qu'on ne prend pas le temps comme aujourd'hui, d'échanger pour comprendre, tant qu'on n'est pas plongé dans le quotidien que tu décris, dans la vie d'un groupe, de l'investissement que ça demande, de l'engagement aussi qui est pris.
Ouais.
Tu as évoqué tout à l'heure, en début d'émission, l'idée de la relation amoureuse. Il y a quelque chose qui est l'ordre de la passion qui s'engage aussi sur scène, en dehors de la scène, au sein du groupe et au-delà du groupe.
Tout à fait, ouais. Un groupe comme ça, pour qu'il soit équilibré, il ne faut pas qu'il y en ait un qu'on tire. Là, on est quatre et il y a quatre locomotives. En fait, vraiment, hein. C'est-à-dire que, et ça c'est génial, parce qu'on sait qu'on peut compter les uns sur les autres. Moi, j'ai aucun doute sur aucun, je sais. Et ça n'a pas été le cas de tous mes projets, mais dans celui-ci, c'est vraiment le cas. Et bien évidemment, comme tout est impermanent, un bon bouddhiste, je vais dire ça comme ça, bien sûr que l'histoire aura une fin. Mais c'est pas parce que c'est une fin que c'est triste, en fait. Il y a un beau parcours, il y a un chemin qui aurait été fait. Et je sais pas où on va, je sais pas combien de temps on va marcher ensemble, mais on a envie de faire un bout de chemin ensemble. Et ça, c'est sûr, on va dans la même direction.
Ouais. C'est très beau, le message que tu nous envoies. On a envie de l'étendre plus largement à la vie sociale et la vie en société. Comment tu te projettes vis-à-vis de ce constat, durablement ou temporairement? Tu as commencé à y répondre en disant on va passer un bout de chemin ensemble. Tu as commencé à dire aussi qu'il allait y avoir l'envie, en tout cas commune, d'être accompagné sur ce chemin. Dans le travail qui a été le vôtre au départ, une mise à distance forcée, puis rapprochée par la nécessité de se retrouver physiquement pour partager des choses, les choses se projettent désormais. Est-ce que l'idée, c'est d'être dans la continuité de ce qui a été fait, d'instaurer, toujours dans la métaphore amoureuse, une rupture dans le fonctionnement, ou de travailler sur une meilleure communication, articulation, où tout est déjà là, et voilà, comment vous projetez les choses?
Il y a une bonne base, hein. Comme je le disais, il y a vraiment une bonne base, parce qu'on est quatre locomotives, moi j'ai vraiment ce sentiment-là, il y a une confiance, et puis il y a la vraie vie, on est conscient de la vraie vie, je parlais des disponibilités ou des indisponibilités. Il y a une belle synergie quand on travaille, donc quand on se met au travail, en fait, on essaye un nouveau morceau, la première répète, il tourne, quoi. Des fois, il y a des réglages, bien sûr, c'est pas du premier coup parfait, mais en général, il joue. Voilà, on tient ce nouveau morceau, on l'a bossé, on arrive et on le met globalement dedans. Il y a toujours après des peaufinages et puis des changements qui peuvent avoir lieu par la suite, parce qu'on se dit, tiens, mais si on faisait ça, bien sûr, mais voilà. Et l'idée, là, on a écrit cette dernière année, on a arrangé plus qu'écrit, parce que c'est Vincent qui écrit les morceaux, quelques nouveaux morceaux, plusieurs nouveaux morceaux. Et du coup, là, on s'est mis dans le projet de sortir pour l'automne prochain un nouvel EP, donc un Extended Play, de 6 titres. On est parti là-dessus, donc on a déjà choisi les titres parmi les nouveaux titres composés. Et là, on est parti pour vous dire même la date du 14, 15, 16, je crois que c'est ça qu'on a bloqué juillet, on va enregistrer la batterie. Donc c'est chaud, quoi. On est dedans.
Donc comment ça sort durablement ce travail de composition? Alors tu as dit que c'est Vincent qui prend plus ou moins ces choses-là à charge, mm-hmm. mais dans l'ADN du groupe aussi, parce qu'on peut très bien envisager qu'il est confortable d'être dans de la reprise ou de la reformulation de ce qui existe déjà, du recyclage. Mmh. J'entends depuis le début de cette émission une vraie réflexion, aussi bien en termes de contenu que de contenant, une volonté continue de remise en question. Est-ce qu'à un moment vous passez par la gomme aussi, c'est-à-dire d'aller effacer des choses d'une fois à une autre? Est-ce que les morceaux se transforment?
Oui, bien sûr. D'ailleurs, les morceaux qui sont diffusés sur les plateformes numériques aujourd'hui, ils ont changé. Bon, on le savait un petit peu quand on les a diffusés, c'était pas grave. Voilà. Moi personnellement, j'ai pas trop ça, mais j'ai parlé tout à l'heure du côté un petit peu disruptif de Vincent, et on en a un autre de disruptif, c'est Maxence. Il a toujours une idée surprenante, un truc de batteur. Une idée surprenante, un truc qu'on n'attend pas, un rythme de taré pour faire un truc de fou, avec lequel, et puis quand il a une idée, il a vraiment une idée, quoi, il y tient vraiment. Mais c'est rarement une mauvaise idée, il faut reconnaître. Elle est généralement surprenante, mais je dis rarement parce que pour laisser une ouverture, mais j'ai pas souvenir d'un moment où on dit, oh, c'était vraiment une idée de merde, quoi. Non, j'ai pas ça dans l'esprit. Donc voilà, Pierre y suit. Il est très ouvert et il donne son voilà il donne son meilleur pour être vraiment soutien, pour prendre sa place et de musicien, de bassiste et de chanteur, enfin de chœur, on fait tous les chœurs, hein, tous les trois, Maxence, Pierre et moi. Et moi, ben je crois que ce que j'entends, c'est très simple, en fait. Et du coup, je joue ce que j'entends. Mais finalement, c'est vrai que ces synthétiseurs, ces pianos, ces claviers, ça prend une place qui font vraiment une signature sonore dans le groupe de fête, parce qu'aujourd'hui, beaucoup de groupes de rock n'ont pas de clavier. Enfin, voilà, c'est quand même, on a beaucoup de guitares, beaucoup de basses, beaucoup de batteries, mais les claviers, c'est quand même rare. Et du coup, on arrive avec cette force du clavier, avec un claviériste, pour ne parler que de moi, qui aime vraiment la technique, qui aime vraiment le son et qui va aussi chercher finalement des sons qui n'existent pas. Alors, bien sûr, je joue avec des pianos et des orgues, mais des synthétiseurs, quoi.
Sur cette partie-là, on a vu dans les groupes de rock émerger par moments des orgamons, des Fender.
Oui, Fender Rhodes.
Qui apportaient des effets particuliers, les pianos, les synthétiseurs. On entend presque toi que tu vas dans le coup d'après, c'est-à-dire d'aller chercher plus que des instruments, des sons à découvrir.
Alors je pense que là pour le coup, je suis pas différent des autres musiciens. Je pense qu'on est tous là-dedans. On a tous un son. On cherche un son. Et tant qu'on l'a pas, le son n'est pas bien. Donc on a une envie, c'est organique.
Voilà. Une volonté commune de réfléchir à une identité sonore. C'est-à-dire, est-ce que ce qui vous fédère aussi du groupe, ça va être de faire le lien à travers une identité du groupe qui prend une forme musicale? Est-ce que la question se pose sur la tenue de scène? Est-ce que ce chose-là se pose pour l'avenir?
Alors, la tenue de scène, alors, on a Là, il y a une photo qui défile juste derrière moi. On est tous les quatre avec le même t-shirt, sauf moi qui avais les manches longues parce qu'il n'y avait plus que trois t-shirts comme ça à Gémeaux quand on est allé chercher les t-shirts. Mais en fait, on a tous les mêmes t-shirts noirs avec un petit liseré blanc. Et puis, on a décidé de laisser tomber ce concept-là, mais on est tous en noir. Voilà, pour l'instant, on a réouvert la liberté de vestimentaire. On a fait une émission de télé. Moi, j'avais un kéfié, parce que j'adore les kéfiés. C'était l'hiver, et du coup, j'avais un kéfié à l'émission de télé. Voilà, on était tous avec ces t-shirts noirs à liseré blanc. Et là, aujourd'hui, comme je le disais, on est tous en noir. Voilà. Ensuite, par rapport au son, on n'a jamais vraiment discuté d'une identité sonore de 1961 Project. On n'a jamais été vraiment là-dedans. C'est un truc qu'on découvre. On arrive avec nos propositions. Et ces propositions créent, j'ai le sentiment que c'est comme ça que ça se passe, que ce sont les propositions qui viennent, qui sont acceptées ou pas, hein. Ça peut arriver, hein. Des fois moi je peux avoir des propositions de son et les mecs ils disent non mais c'est quoi que tu nous fais là. Ils me le disent pas comme ça, mais c'est ce que ça veut dire. Et là je revois ma copie, parce que moi j'arrive avec, c'est long, hein. Alors du coup j'ai toute la place du micro, ils sont pas là les copains, hein, mais...
C'est pas grave, tu parles pour eux.
Ben là, je parle pour moi dans le sens où je voulais dire que c'est long de créer des sons avec les claviers et les synthétiseurs. C'est-à-dire d'aller chercher cette fameuse recherche organique dont je parlais tout à l'heure. Là, ça peut prendre vraiment du temps. Et des fois, je fais chou blanc. J'arrive et non, ça marche pas, quoi. Ben, c'est pas grave, hein. Je recommence, je recherche.
Ouais, tu prends la gomme ou tu reconstruis en permanence. Ouais. Alors, le travail du son, certes, de l'identité, certes, mais ce qu'on oublie souvent aussi, c'est la recherche du silence et de l'écoute. Mmh. Elle est des fois plus importante pour entrer en communication, en relation avec les autres, plus que de combler des vides, c'est de les accepter.
Ouais, tout à fait. Bon, là, c'est Miles Davis, hein, qui dit ça, la musique, c'est les silences. Hein. Il ne le disait pas comme ça, mais c'est, en tout cas, c'est lui qui parlait très bien, beaucoup mieux que moi, de silence et de musique. Ouais, ça c'est un axe de progrès aussi, parce que bien évidemment, la nature a horreur du vide et du coup, la tendance est de combler quand il y a un trou. Et c'est pas là que ça se passe. C'est pas là que ça se passe. Donc, d'accepter le silence, le rechercher. Et donc ça c'est ce que tu disais tout à l'heure, tu parlais de la gomme. D'accepter de lever les doigts de l'instrument et de laisser respirer la musique. Donc ça, c'est vraiment les axes de progrès en fait. Ça vient avec la maturité. On est plutôt jeune, hein. Moi je suis plus vieux du groupe, j'ai 50 ans, donc on n'est plus des gamins, mais il y a quand même cette fougue encore adolescente en nous, et du coup la maturité musicale elle n'est pas encore là, donc on a encore du travail là-dessus. Ouais.
L'acceptation de soi, du groupe, il y a tout le travail, quand tu dis on est encore des gamins, de l'acceptation dans la vie d'être l'enfant qu'on était, l'adolescent qui a refusé l'enfant qu'il était et l'adulte qu'il est devenu. Il y a peut-être cette phase de maturité aussi qui est qu'un devenir.
Là, c'est une histoire de vie. Hein. Je pense qu'un musicien, il mène peut-être des métiers parce que il n'est pas forcément professionnel. Et ça n'a rien à voir avec le fait qu'il soit un musicien ou pas. Mais voilà, il y a une recherche continue, quoi. Il y a une recherche continue.
Avec un clin d'œil peut-être ou pas à Eminem et une recherche du côté américain avec un titre qui s'appelle 8 Miles.
Et ou pas. Et c'est pas du tout le cas.
Voilà.
8 Miles. 8 Miles. Eh bien, en fait, ça aurait été génial si ce matin, quand c'était eu au téléphone, tu m'avais dit, on va parler des chansons. Pense un petit peu au propos des chansons, parce que là, je vais botter en touche sur le coup. J'aurais laissé parler un copain pour parler de la chanson, peut-être Vincent d'ailleurs, mais il n'est pas là.
Est-ce que tu peux nous parler, toi, de le regard que tu as porté dessus quand tu l'as découverte et ce qu'elle a signifié pour toi, peut-être?
Ouais. 8 Miles, il y a un côté, blues américain dedans. Elle commence avec un riff blues américain. Il y a une vieille voiture des années 60 qui démarre au tout début du morceau. On est dans une ambiance, on est dans une ambiance avec une guitare qui part. Et c'est un morceau, comme beaucoup de morceaux de Vincent, qui part complètement en cacahuète. C'est-à-dire qu'on part dans cet univers et on arrive ailleurs.
Let's go on air with 8 Miles.